Vous écoutez RTL. Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver dans notre cabinet de curiosité. Vous allez bien, Thomas?
Ça va très bien, j'ai pas bien compris. Il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a eu une histoire avec Casimir.
C'est une grande histoire, vous le saurez dans quelques instants si vous restez dans notre émission.
Allez, au programme, un génie des mots, un grand destin français comme on les aime. Jacques Prévert, 40 ans après sa disparition, découvrira notamment comment ses plus beaux textes sont devenus de grandes chansons populaires.
Il envahit notre quotidien, il est bien utile, mais il pollue aussi nos océans. On vous fait découvrir tous les aspects du plastique. D'où vient-il? Comment est-il fabriqué? Est-ce qu'il est dangereux pour nous? Et comment il abîme notre planète? Quels sont les plastiques d'avenir? Parce qu'il faut se projeter aussi toutes les réponses dans une demi-heure dans la curiosité.
Et tout de suite donc, on ouvre les portes de l'Élysée sur RTL.
Me revoilà.
RTL.
Je transmettrai ma charge officielle à celui que vous aurez élu pour l'assumer après moi.
La curiosité est un vilain défaut.
Que s'est-il passé à l'Élysée le 7 avril 1994 dans le bureau de François de Grossouvre?
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans un mois, l'Élysée accueillera un nouveau locataire. Quels sont les secrets de ce palais présidentiel français? La visite privée avec notre invité Gaëtan Morin, journaliste et chef de service au Parisien Magazine aujourd'hui en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver. Vous
ça
allez bien?
Un moment, hein.
Vous nous avez manqué. Et heureusement, vous consacrez un article en partenariat avec RTL à ces moments intimes, des moments privés, mais aussi des moments politiques. Tous ces moments qui sont déroulés à l'Élysée. Dans quelques semaines, il y a un nouveau président qui va investir l'Élysée. Et il y a un moment clé, c'est la passation de pouvoir. Ça, c'est un moment fort dans l'histoire de ce palais.
C'est surtout un moment très codifié, en fait. Il y a tout un rituel qui commence dès 11h le matin. On déploie le tapis rouge à l'Élysée, qui fait à peu près 60 mètres. Et ensuite, quand le nouveau président arrive, il a tout un passage obligé avec un chef du protocole qui est très scrupuleux, également sur la montre. Et un des temps forts de ce rituel, c'est l'entretien en tête-à-tête entre l'ancien président et le nouveau. Et ça ne se passe pas toujours très bien.
Vous avez un exemple en tête, par exemple, François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Le dernier en date, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont enfermés dans le bureau présidentiel pour échanger sur la passation de pouvoir et notamment échanger les codes nucléaires. Et en fait, ça a été un moment très tendu parce que la campagne avait été très vive et très dure entre les deux, à tel point que d'ailleurs, dans son discours un peu plus tard d'intronisation, François Hollande mentionnera et rendra hommage à tous ses prédécesseurs. Sauf à Nicolas Sarkozy.
Et puis il y a eu une gaffe aussi au moment où le couple Sarkozy quitte le palais de l'Élysée. Normalement, François Hollande doit se comporter comment et qu'est-ce qu'il va faire en réalité, qu'il va regretter d'ailleurs?
Oui, en fait, il était devenu d'usage. Alors pour le coup, c'est Jacques Chirac qui avait créé ça en raccompagnant François Mitterrand à l'époque, en 95.
Jusqu'à sa voiture.
Voiture. C'est-à-dire que normalement, le nouveau chef de l'État reste sur le perron et regarde l'ancien partir. Jacques Chirac avait introduit, en foulant le protocole finalement, introduit une nouveauté en raccompagnant vraiment François Mitterrand jusqu'à sa voiture. Et depuis, c'était devenu la norme. Et François Hollande, lui, restera sur le perron avec Valérie Trierweiler et regardera s'éloigner l'ancien président avec Carla Sarkozy même à son bras. Et l'ancien président d'ailleurs lui en veut toujours. Et François Hollande regrettera après, puisque ça a été très mal perçu par l'opinion publique. C'est quand même un moment républicain, la passation de pouvoir. Donc on est censé.
Oui, c'est une attitude d'un homme normal.
D'un président normal. Il l'a regretté récemment.
Exactement.
Il a dit, si j'avais su que ce serait perçu comme ça, j'aurais
exactement.
Fait
c'est des moments importants, c'est des moments symboliques en fait.
C'est des moments où ils envoient des messages aussi,
exactement.
Quelque part.
Et donc c'est vraiment codifié à la minute près?
À la minute près, exactement. Il y a tout un rituel en fait. Quand ils arrivent, ils passent d'abord en revue une partie des troupes. Ensuite, j'ai pas forcément tout le rituel en tête, mais ils reçoivent aussi le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur. Mmh. Ils ont à un moment, du coup, plutôt côté jardin, le passage en revue de la troupe militaire. Ensuite, ils ont toute l'intronisation avec le discours officiel. Enfin, ouais, du coup, c'est très codifié, en fait. Mmh. Et c'est assez long. Et après seulement, ils partent. Vous vous souvenez de cette image de François Hollande sous la pluie? Après seulement, ils partent remonter les Champs-Élysées.
La pluie, la fameuse pluie qu'il a poursuivie.
C'est pas faux.
Quelques années.
Après tout son mandat. Depuis quand les présidents de la République vivent à l'Élysée?
Alors en fait, depuis assez longtemps, dès la 4e République, mais nous on a choisi de s'arrêter sur la 5e. Et donc en fait, François Hollande, mais pas du tout.
François de Gaulle, vous voulez dire.
C'est ça, Charles de Gaulle, c'est mieux.
C'est une campagne où on mélange les prénoms et les noms.
C'est
hein.
ça, on s'y perd vite. Voilà. Cela dit, ça revient souvent sur François, donc ça devrait aller. Donc Charles de Gaulle, en fait, est arrivé à l'Élysée en 1959, un palais qu'il n'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé y vivre et il y restera 10 ans.
Parce que c'est d'abord un lieu de pouvoir.
C'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu qui n'est pas très fonctionnel, qui est quand même très vieux, très décati, alambiqué, les couloirs. Mais en même temps, ça s'y prête, c'est un lieu mystérieux, parce que du coup, dans les dédales des couloirs, on découvre toujours des nouvelles portes ou des nouveaux lieux, en fait.
Et c'est un lieu où les présidents de la République sont obligés d'habiter avec leur famille ?
Oui, je crois pas que... En tout cas, c'est d'usage. Je crois pas qu'il y ait un président qui n'y ait pas habité. Nicolas Sarkozy rentrait très souvent chez Carla le soir, mais normalement, ils ont leurs appartements privés dans l'aile est du palais.
C'était quoi, ce palais de l'Élysée, avant d'être un palais présidentiel ?
Alors avant, ça a été la demeure de la marquise de Pompadour, qui l'avait acquise et qu'il l'a transmis à sa mort à Louis XV, qu'il l'a lui-même transmis à Louis XVI. Ça a aussi été le palais de Napoléon Ier et de Napoléon III, donc c'est assez drôle de se dire que ça a été quand même le palais aussi bien de l'Empire que de la République, finalement.
Est-ce que, Gaëtan Morin, le palais de l'Élysée, c'est un palais discret ? Un palais secret, un palais qui ne parle pas trop.
Voilà, si les murs pouvaient parler, ce serait merveilleux. Non, effectivement, c'est un palais assez secret, mais aussi par son personnel, qui est tenu à la discrétion et qui s'y tient, même une fois retiré du palais.
Jamais soudoyé par des magazines People ?
Non, jamais. Vous pouvez essayer, mais jusqu'ici, ça tient.
Au début du quinquennat de François Hollande, il y a eu quand même un moment où il a un peu cherché à savoir qui était la taupe.
Oui, pour la photo de Julie Gayet, avec Julie Gayet. Ouais, il y a eu cette exception, mais en même temps, on n'est même pas sûr qu'elle ait vraiment été prise par quelqu'un de l'Élysée, du personnel de l'Élysée. Mais il y a eu effectivement ce petit flottement, mais c'est très rare. Hein, normalement,
oui, on peut dire que depuis 59, le personnel de l'Élysée a su prouver effectivement sa discrétion.
Nounours et Casimir.
Vous êtes sûr que c'est dans cette émission-là.
Je vous promets, on vous raconte cette drôle de réception organisée par Valérie Giscard d'Estaing. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Le palais a sa force magique, celle de l'histoire, grande ou petite.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous savez bien qu'un président avait sa maîtresse dans la rue voisine, rue du Cirque.
Ah bon ?
C'était Napoléon III, qui dans cette escapade fut imité plus tard par un autre. Vous n'ignorez pas non plus que Félix Faure y mourut dans les bras d'une demi-mondaine.
Jusqu'à 22h.
Quand on va ubériser le pouvoir, peut-être. Après tout, RTL va bien déménager, pourquoi pas un jour l'Élysée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nicolas Domenac qui raconte l'Élysée dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL, ce palais qui accueille depuis des siècles les rois, les courtisanes, les empereurs et les présidents. On vous le fait visiter, on vous raconte les grandes et les petites histoires de l'Élysée avec la journaliste et chef de service du Parisien Magazine. Aujourd'hui en France, Gaëtan Morin, le palais de l'Élysée qui a tout vécu en beau, en moche, en merveilleux, en glauque.
En dramatique.
En dramatique. Alors, on va raconter un moment émouvant et drôle. 14 juillet 1998, Jacques Chirac reçoit l'équipe de France de foot qui vient d'être sacrée championne du monde. Vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance ?
Il est tout à son émotion. Il est content. C'est la fête. Hein. Ça fait deux jours qu'on est champion du monde. Et il accueille l'équipe de France en disant... Ah, et vous avez la Coupe de France.
Voici la Coupe de France. En montrant le trophée.
Il se reprend tout de suite quand même.
Hein. Oui, j'imagine. Mais il faut peut-être rappeler d'un mot le contexte politique aussi, parce que pendant toute cette Coupe du Monde, on est en cohabitation, et donc il y a Jacques Chirac, président de la République, Lionel Jospin qui est Premier ministre, et les deux essayaient quand même de tirer profit
de récupérer l'événement, c'est
des Bleus.
Souvent le cas, effectivement.
Ah oui, donc c'était la Coupe de France pour Jacques Chirac et la Coupe du Monde pour Lionel Jospin.
Ouais, et pour Jacques Chirac, ça voulait dire qu'il recevait l'équipe de France à l'Élysée dans son fief.
Et c'est champion.
Exactement, ça lui permettait de profiter un peu de... En plus, c'était la France Black Blamber, donc il y avait cette idée de communauté, de cette nation, du vivre ensemble. Et effectivement, il en a profité d'ailleurs.
Alors, autre réception un peu particulière à l'Élysée, on est le 19 décembre 1974 et Valérie Giscard d'Estaing invite un drôle de personnage. Alors, c'est pas la Panthère Rose. Mais qui?
Pourtant, on a fait du teasing hein, avec Casimir et tout. Mais non, à cette époque-là, c'est Nounours.
Oui, c'est Nounours.
C'est Nounours, c'est Bonne nuit les petits.
Le Nounours.
Mais ouais. Oui, on a oublié. Mais
c'est
non.
Trop. Pour votre génération, ça dit rien,
mais
les
si,
filles.
Mais si, on était sur la fin, nous.
Enfin, ouais, non, moi, j'étais pas née. Mais non.
Moi, c'est trop émouvant d'écouter la musique de Nounours. Vous
vous endormiez avec ça?
Mais bien sûr.
Donc, c'était le héros.
Oui, mais quand même, pour la petite histoire, il se trouve qu'il n'était plus à l'antenne à cette époque-là et que Valéry Giscard d'Estaing l'invite. Bon, en plus, c'était le président moderne. C'est pour l'arbre de Noël de l'Élysée, offert à des enfants défavorisés. Et donc, il l'invite, Nounours, et qui plus est, il prend part au spectacle parce qu'il voulait vraiment animer la chose avec lui. Et il obtient que Nounours revienne à la télé un an plus tard.
Et alors,
le pouvoir du président de la République, c'est dingue.
Et il y a cette photo, donc on est deux ans après, 14 décembre 1976, photo dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France, où on voit Valéry Giscard d'Estaing avec un micro-main et Casimir à côté de lui et en mode animation.
C'est ça. Bah, après avoir fait Nounours, non, mais... il a pris la modernité. Là, c'était L'île aux enfants. Donc, oui. Il a pris Casimir.
C'est une image qu'on n'a pas forcément de lui ou qu'on avait oubliée. Et alors, non,
et avec des confettis. Il a des confettis.
C'était quand même un président très roi de la com. Hein, parce que même, on n'a pas la photo, mais il se trouve qu'en 75, il fait la même chose à l'Arbre de Noël avec quand même Claude François au piano et il entonne Douce nuit.
Incroyable. Et ça fait de la presse, évidemment. On en parle.
Mais
ça fait le buzz à l'époque.
Des années après, vous vous rendez compte, 40 ans après, on en parle encore.
On autre, a oublié comme il était moderne.
Un autre moment glamour, celui-là, c'était un jeune président, c'est vrai, VGE. On est à l'Élysée, toujours, évidemment. On est en décembre 1967. J'adore cette photo. Il faut vraiment que vous la regardiez, vous la découvriez dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France. Un sexe symbole français qui débarque à l'Élysée.
Et une très belle histoire, puisque le général de Gaulle admirait Brigitte Bardot, qu'il avait vu jouer dans des films. Et Brigitte Bardot arrive à l'Élysée pour un dîner d'État réservé à des artistes. C'est la première fois qu'elle rencontre le général de Gaulle. Et elle arrive, elle foule le protocole. Normalement, à cette époque, les dîners d'État, c'est en robe longue. C'est en plus même robe du soir. Oui. Et elle arrive, comme d'habitude, très transgressive, en pantalon, avec une tunique à brandebourg. Et lui la voit arriver sur le perron et l'accueille et lui dit « Ah, c'est vous !» Je croyais que c'était un militaire.
Quelle phrase mythique. Yvonne de Gaulle, on sait si elle a goûté le style de Brigitte Bardot.
Non, n'ai pas ce détail.
Elle était vigilante, Yvonne de Gaulle. Mais la photo est vraiment magnifique.
Ouais, c'est vrai.
Toute la beauté de Brigitte Bardot.
Et effectivement, toute sa liberté aussi.
Sa liberté, ouais. c'est ce que j'allais dire.
De Gaulle qui est arrivé à l'Élysée en 1959 et qui quitte le pouvoir en 1969, mais qu'il pas le pouvoir n'importe comment. Il met en scène
effectivement,
son départ.
Il met en scène. En fait, c'est juste avant le référendum qui va lui être fatal. Il sait déjà qu'il va perdre. Et du coup, quand il prépare ses bagages pour partir ce week-end-là à Colombey, il sait qu'il ne remettra pas les pieds dans ce palais. Et il soigne sa sortie, c'est-à-dire que lui qui avait l'habitude de sortir en voiture par la porte et le jardin, devant le jardin.
Avec sa déesse noire.
Exactement. Fait garer cette fois-ci sa déesse noire devant le salon d'argent, ce qui n'arrivait jamais.
Et pourquoi ?
Salon d'argent qu'il abhorrait. Mais
c'est
alors,
pourquoi ?
Il le détestait.
Qu'est-ce
parce
qu'il avait,
que salon c'était un c'était le symbole de la défaite de Napoléon Ier dans la bataille de Waterloo. C'est là que, en fait, Napoléon Ier avait signé la défaite. Et du coup, en fait, pour De Gaulle, c'est associé à un déshonneur de la France. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait garer sa déesse noire devant ce salon et qu'il emprunte exactement le même chemin pour partir et quitter l'Élysée que Napoléon Ier. Il met finalement ses pas dans ceux de Napoléon Ier.
Des moments douloureux, il y en a eu aussi à l'Élysée, suicide, maladie, divorce, on va vous les faire découvrir dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Au palais de l'Élysée dans la curiosité. Vous ne restez pas juste sur le perron, non, vous entrez dans ce palais mythique, lieu symbolique de la République française, auquel le Parisien Magazine Aujourd'hui en France, en partenariat avec RTL, consacre un article, et c'est Gaëtan Morin qui nous sert de guide. Alors l'Élysée, ce ne sont pas que des Casimir, des histoires d'amour et compagnie, ce sont aussi des drames personnels ou des drames politiques. Que se passe-t-il ce 7 avril 1994 au palais d'Élysée?
Alors en fait, dans la soirée, un coup de feu retentit, tout l'Élysée l'entend et on découvre dans son bureau François de Grossouvre, conseiller et ami intime mais répudié de François Mitterrand, qui s'est donné une balle dans la tête et qui est mort.
C'était le conseiller Afrique, c'est ça, de Mitterrand, entre autres, quoi.
Ouais, conseiller spécial, en fait, de Mitterrand, exactement. Il était marginalisé, hein, Mitterrand ne lui parlait plus. Il s'est suicidé donc dans le bureau. On a retrouvé la balle logée au plafond.
C'est tabou, ce suicide à
C'est tabou. On s'est même posé la question à ce moment-là, quand on découvre son corps, de déplacer son corps pour le ramener, en fait, à son appartement personnel, quai de Branly, pour qu'on ne le découvre pas à l'Élysée. C'est le seul mort, à part Félix Faure, qui est mort dans les bras de sa maîtresse, mais sinon c'est le seul suicide connu au palais, quoi.
La symbolique qu'il peut y avoir à se suicider dans son bureau.
Exactement.
Il n'a pas choisi ce lieu-là par
Exactement.
Hasard.
On sait aujourd'hui qui occupe le bureau.
Non, alors ça c'est le plus grand mystère de l'Élysée, c'est que j'ai interrogé plusieurs conseillers actuels de François Hollande pour leur demander s'ils savaient qui occupait le bureau de François de Grossouvre. Et en fait, non seulement eux ne le savent pas, mais quand ils posent la question aux huissiers et au personnel de maison, le personnel indique toujours vaguement l'espace et donne, selon à qui il s'adresse, un bureau différent. Ce qui fait qu'en fait, quand ils comparent entre eux, ils ne savent toujours pas qui occupe ce bureau. C'est devenu totalement tabou.
Oui,
en fait.
Vraiment, c'est une autre démonstration, si j'allais dire, du côté tabou de cette histoire. Il y a plusieurs photos dans votre dossier du Parisien Magazine aujourd'hui en France qui illustrent ces moments parfois douloureux à l'Élysée. Il y en a une que je trouve particulièrement émouvante. Avec le recul du temps, c'est la photo de Claude Pompidou. On est le 21 mars 1974. Elle préside le dîner des ambassadeurs. Pourquoi ?
Elle est toute seule, sans son mari, qui est alité au premier étage et qui ne peut plus se lever. On est quelques jours avant son décès. Il n'a jamais annoncé publiquement qu'il était atteint d'un cancer du sang. Ce jour-là, comme il ne peut se lever, c'est elle qui préside ce dîner avec le Premier ministre Pierre Messmer. Et elle fait face tout au long du dîner, très digne, pendant que lui reste au lit.
Agonisant.
Quelques mois plus tard, vous racontez une histoire que je découvre complètement, Gaëtan Morin. C'est un intrus, un inconnu, qui passe le week-end comme ça, tranquille, à l'Élysée. C'est quoi
Alors,
cette histoire ?
Il y a eu plusieurs tentatives d'intrusion. Cet homme est quand même le seul à être parvenu à sauter. Il a escaladé la grille du coq.
Qui se trouve
un soir. C'est celle qui est devant le jardin, en fait, celle qu'on n'emprunte jamais. Donc, il a réussi à s'introduire dans le salon d'argent, à y passer le week-end, parce qu'à l'époque, le président n'était pas là. Donc, il a passé le week-end tranquille sur le canapé, qui est quand même le canapé où Félix Faure a eu ses derniers ébats avec sa maîtresse.
Il était seul ou pas, cet inconnu ? On connaît le fin mot de l'histoire ?
A priori, il était seul. Et le lundi, il a été congédié.
Et congédié et emprisonné, jugé ou
Non, non. Je crois pas que ce soit allé jusque-là, mais enfin oui, il a dû s'expliquer.
L'Élysée, évidemment, c'est d'abord un lieu où on prend des décisions politiques, des décisions capitales. C'est de là que le président de la République décide notamment des opérations militaires.
Oui.
Avec ce qu'on appelle le PC Jupiter. Alors, on en a déjà parlé ici à la Curiosité. Vous pouvez nous décrire le lieu. Est-ce que c'est si impressionnant que ça ?
Le PC Jupiter, en fait, a été créé par Valéry Giscard d'Estaing. Mmh. C'est lui qui l'a introduit, sachant que le président de la République est le chef des armées. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est lui qui a le poste de commandement militaire. Donc, le PC Jupiter, c'est ça. C'est PC pour poste de commandement, Jupiter pour la foudre. Mmh. Et donc, quand la situation le nécessite, le président descend avec l'état-major des armées. Donc c'est un souterrain, il emprunte un souterrain et c'est en fait en sous-sol du palais. Les gens, par exemple les conseillers du palais, connaissent juste la porte en fait qu'on leur a présentée, mais n'ont jamais emprunté cet endroit qui est très secret. C'est une alcôve en fait et réservée vraiment au chef d'état.
Alors des moments durs, on en a traversé en France et forcément le président de la République et l'Élysée aussi. Depuis les attentats du 13 novembre 2017, nous sommes en état d'urgence.
13 novembre 2015.
J'ai dit quoi ? 13 novembre, oui, lapsus terrible. Qu'a fait François Hollande en revenant du Bataclan ?
En fait, quand il est revenu du Bataclan le 13 novembre 2015, il s'est enfermé. Non, d'abord, il a fait une déclaration à la presse, la voix blanche, en disant c'est une horreur et on sentait qu'il pesait ses mots. Ensuite, il s'est enfermé dans son bureau. Sa décision a été prise de toute façon de décréter l'état d'urgence. La seule chose, c'est que pour cela, il faut convoquer un conseil des ministres extraordinaire puisqu'il faut que ce soit avalisé par le conseil des ministres. Donc, il s'est enfermé dans son bureau, a convoqué ce conseil des ministres à minuit et on a effectivement la photo de ce moment très solennel et très grave. La France est meurtrie, les ministres sont meurtris et même François Hollande, hein, qui a craint pour ses enfants cette nuit-là, est meurtri et donc c'est un moment très solennel. solennel.
Ça veut dire qu'on ne dormira pas, les bureaux vont rester allumés quasiment toute la nuit,
ouais,
à l'Élysée.
C'est ça, c'était vraiment une réunion de crise.
Alors, d'autres histoires, on va terminer sur une note plus sympathique.
Allez,
plus légère.
Une histoire de cœur, le 15 octobre 2007. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau présidentiel?
C'est une histoire aussi un peu triste.
Oui.
C'est la fin d'un mariage.
Et après, il y a
un
rebondissement.
Voilà. Y a le happy ending.
En fait, ce jour-là, Nicolas Sarkozy et Cécilia entérinent leur divorce devant un avocat. Donc, dans le bureau présidentiel, et le bureau n'est pas choisi par hasard, parce qu'en fait, ils veulent éviter les fuites. Donc, par souci de discrétion, ils se mettent dans ce bureau. Les fuites commenceront quand même dans les jours qui suivent, et trois jours après, une fois qu'ils se seront mis d'accord sur le communiqué, ce sera officialisé.
Et puis après, il annoncera son coup de cœur.
Son coup de cœur quelques mois plus tard, hein, pour Carla,
en conférence de presse. C'est très étonnant.
C'est totalement surréaliste, où il explique Carla, c'est du sérieux.
Bah voilà, on termine là-dessus.
Merci Gaëtan Morin. Merci. Le Parisien Magazine aujourd'hui en France, c'est du sérieux et ça s'est passé à l'Élysée. C'est le nom de votre article en partenariat avec RTL. On a hâte de vous retrouver au micro de la curiosité.
Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée.
Vous écoutez RTL.